Bien voilà, Ondes Noires, deuxième partie. Et Benjamin Whitmer nous a fait le grand plaisir de rester avec nous, car il va nous lire un petit extrait de son dernier roman dont nous venons de parler dans la première partie d'émission. Alors je vais présenter un petit peu cet extrait parce qu'il va vous le lire évidemment en VO, en anglais, et puis ensuite...
Même en Amérique.
Ou en Amérique. Et puis ensuite je ferai la lecture, mais pour vous situer un petit peu, cet extrait parle de Maupart, qui est un des évadés, un de ceux qui s'évade pour essayer de retrouver son grand amour. Et vous comprendrez que Maupart, à un moment donné, on l'a comparé et on l'a surnommé Dillinger, le fameux bandit américain. Voilà, donc je laisse Benjamin lire en anglais et ensuite, moi, je me permettrai de lire le même extrait en français.
I have never read this section out loud. That Dillinger horse shit had caught on in prison just as easy as it caught on in the papers. And the thing about it was, Maupar never meant to kill Deputy Rhodes. He just wanted to plug him in the leg, show him he was serious. It just happened that the bullet went through one of the big veins, one big enough that Rhodes bled out inside 10 minutes. It was just bad luck. Maupar could have corrected the story, sure, or at least tried. But he wasn't about to give Molly the satisfaction of everybody knowing he was in prison because of her. There's times he wishes he told the real story in court. Maybe if he had, it wouldn't have taken a life sentence. But he wasn't capable. That's the world we live in. You take the punishment you take so nobody knows what kind of idiot you are. Now Molly's married that little Peter Perkins with his ears that look like they've been run into a pencil sharpener. Dayton told him about it. Dayton's got the full story, and she hates Molly enough she keeps Maupart apprised of all her disasters. How Peter's father's drugstore was closed by Warden Jug for not being entirely fastidious and following the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. How Peter had to turn from the only job he was really ever suited for, soda jerk, to the only other job in town. How they'd lost the big house and the two of them had to return to the shack Molly lived in with Deputy Rose. Maupart sees Perkins walking the prison now and then, doing his best to keep from being noticed. That big red nose and his ears that point the tips like they've been given a pull with a pair of needle-nose pliers. Maupart's even thought about taking a poke at him. But the way Perkins walks, with his head drooped like a snow lily, Maupart can't bring himself to do it. Especially after the miscarriages. And the one baby that lived for a week, if you can call it that.
Thank you very much. Merci beaucoup, Benjamin. Dans quelques minutes, nous allons entendre un morceau de musique que vous avez choisi, qui est un morceau de Billy Joe Shaver. Pourquoi ce morceau de musique, Karl?
Why this choice? Well, Billy Joe Shaver is, in my opinion, the greatest American living songwriter.
Parce que Billy Joe Shaver, à mon avis, est le plus grand songwriter américain.
I used to sing his songs to my kids for lullabies.
Je chantais ses chansons à mes enfants pour les faire dormir.
And my favorite line in How I Live My Life that I want on my tombstone comes from Billy Joe Shaver.
Et ma citation préférée pour ma vie, ce que je veux voir inscrit sur ma pierre tombale, c'est de Billy Joe Shaver.
Something like, I spent a lifetime trying to be more than the measure of what I thought people could see.
J'ai passé ma vie entière à essayer d'être un peu plus que ce que les gens pouvaient voir.
Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Merci Benjamin, merci Jacques. Merci. Et puis on se retrouve dans quelques minutes pour la musique. Et donc, le même en français. Cette connerie à propos de Dillinger avait pris dans la prison aussi bien qu'elle avait pris dans la presse. Et le truc, c'est que Maupart n'avait jamais voulu tuer l'adjoint Rose. Il voulait juste lui mettre une balle dans la jambe pour lui montrer qu'il ne plaisantait pas. Il s'est simplement trouvé que la balle a sectionné une des grosses veines. Une veine suffisamment grosse pour que Rose se vide de son sang en 10 minutes. La faute a pas de chance. Point. Maupart aurait pu rectifier l'histoire, c'est vrai. Ou du moins essayer. Mais il n'avait pas envie d'offrir à Molly la satisfaction que tout le monde sache qu'il était en prison à cause d'elle. Des fois, il regrette de ne pas avoir raconté la vraie histoire lors du procès. Peut-être que s'il avait raconté la vraie histoire, il aurait pu éviter la perpétuité. Mais c'était au-delà de ses forces. Voilà le monde dans lequel on vit. Tu prends le châtiment qu'on te donne afin que personne ne sache quel genre d'idiot tu es. Maintenant, Molly est mariée à ce petit Peter Perkins avec ses oreilles qui ont l'air d'avoir été passées au taille-crayon. Dayton lui a dit. Dayton sait tout. Et elle déteste suffisamment Molly pour tenir Mubarak bien au courant de chacun de ses désastres. Le drugstore du père de Peter, que le directeur Jug a fait fermer, parce qu'il ne se montrait pas assez zélé dans l'application du Federal Food, Drug and Comestic Act. Peter, qui se retrouve obligé de quitter le seul boulot qu'il ait jamais été vraiment capable de faire, serveur de soda à la pression, pour se tourner vers le seul autre que la ville pourrait offrir. La perte de leur grande maison, leur retour forcé dans le taudis où Molly vivait quand elle était avec l'adjoint Rose. Mubarak croise parfois Perkins à la prison. Il fait de gros efforts pour passer inaperçu, avec son gros nez rouge et ses oreilles pointues, comme si on les avait étirées avec une paire de pinces. Il est même arrivé à Mubarak d'avoir envie de lui dire salut. Mais à voir comment Perkins marche, tête basse comme une fleur de lys des neiges, Mubarak n'a jamais pu s'y résoudre. Surtout, après, il faut se coucher. Et le bébé qui a vécu qu'une semaine, si on peut appeler ça vivre. Voilà, l'extrait assez désespéré, mais superbe écriture. Donc on espère vraiment qu'entre la première partie d'émission et ces extraits, vous a donné envie de lire Évasion, qui, je le rappelle, est donc aussi sorti récemment aux éditions Gallmeister. Benjamin Whitmer, encore merci, et il nous a donné son conseil de musique. Donc maintenant, nous allons écouter le morceau qu'il nous a conseillé de Billy Joe Shaver.
We are the cowboys.
We are the cowboys, the true sons of freedom. We are the men who will get the job done. We're picking our words so we don't have to eat them. We're rounding them up and driving them off. Mexicans, black men and Jews, they love this old world and they don't want to lose it. They're counting on me and they're counting on you. The world will breathe easy when we stop the bleeding. Fighting will end when all hunger is gone. There's those who are blind, so we'll all have to lead them. It's everyone's job till we get the work done. We are the cowboys, the true sons of freedom. All the men who will get the job done. We're picking our words so we don't have to eat them. We're rounding them up and driving them home. We're rounding them up and driving.
Bien voilà, après ce très beau morceau, choisi, je le rappelle, par Benjamin Whitmer, nous allons vous parler de deux ouvrages. La plupart du temps, on vous parle de romans, mais là, ça, on va vous parler d'un livre qui va certainement devenir un usuel, et puis le deuxième, un magazine. Le plus gros, ça s'appelle Le Polar pour les Nuls, c'est dans la fameuse collection de Tout pour les Nuls, chez First Edition. Aux manettes de cet ouvrage, à la plume, au clavier, deux éditrices. La première, Marie-Caroline Aubert, la deuxième, Nathalie Benat, éditrice, comme je viens de le dire, mais aussi deux expertes, S-romans policiers, et, ce qui ne gâche rien, au contraire, deux passionnés. Et cela donne un livre de référence, oui, qui va vraiment devenir un livre de référence, car si les néophytes vont y trouver leur compte, les connaisseurs, les acharnés, vont aussi vouloir l'avoir et le ranger dans leur bibliothèque.
Alors, et le lire.
Et le lire, bien sûr. Le lire, le picorer, le... voilà. Parce que je crois que c'est vraiment pas un livre qu'on prend de la première à la dernière page, mais on va en lire une partie, puis de temps en temps, on va chercher des renseignements. Alors, donc, on va quand même parler du contenu. 6 parties. Les 2 premières parties, on va dire, c'est l'histoire du polar. Hein, l'histoire du polar avec au départ le Woodinit, le roman de détection, et puis ensuite comment on a basculé petit à petit dans le roman noir, enfin l'avènement du roman noir, puisque ça n'a pas empêché que les romans policiers continuent à être publiés en masse. La troisième partie, ça va plutôt s'intéresser à tout ce qui est écrivain, et puis aussi aux personnages, puisque les personnages sont très importants, ça on va en reparler. La 4e partie, on avance dans le temps, le thème du polar actuel, comment ils sont devenus un petit peu une vision particulière de la société. On arrive à la 5e partie et tout ce qui concerne les thrillers. Enfin, on termine avec l'exercice très très périlleux des listes, les 10 meilleurs romans d'espionnage, les 10 meilleurs films adaptés, d'adaptation. Évidemment, ces listes, ça fait grincer des dents tout le monde. Chacun y va de « mais moi, j'aurais jamais fait comme ça, moi, j'aurais pas mis ça, mais celui-là, il est oublié, c'est insupportable. » Mais au moins, ça le mérite d'entamer les discussions. Alors, voilà. Pourquoi cet ouvrage nous plaît tant ? D'abord, pour le fond. L'érudition, la clarté des propos, c'est évident. On sent une narration... un schéma, un fil conducteur vraiment, vraiment très réfléchi. Il y a vraiment beaucoup de travail derrière. Les thèmes, le plan, les centaines d'entrées. Comme je dis, tous ces fils conducteurs. Le plus, ce sont les chemins de traverse, les digressions. Dans un livre comme celui-là, les encadrés, les ajouts, les citations, les anecdotes. Voilà, par exemple, je ne me souvenais plus, en parlant d'Achel Hamet, tout le monde est persuadé que le fameux roman Le Faucon de Malte, qui est devenu depuis Le Faucon Maltais d'ailleurs, tout le monde est persuadé que ça a été publié à la série noire chez Gallimard. Ben, en fait, la série noire, elle n'existait pas lors de la première édition en français du Faucon de Malte d'Achel Hamet. Donc, c'est dans une collection qu'on a bien oubliée chez Gallimard, qui s'appelait Le Scarabée d'Or. Évidemment, on y parle aussi de films, on y parle de cinéma, parce que le cinéma et le roman noir, c'est quand même une grande histoire d'amour, et on n'oublie pas les séries qui se multiplient, qui prolifèrent beaucoup plus vite que le nombre de collections de polars chez les éditeurs. N'oublions pas les quiz, il y en a plein, c'est vraiment le côté le plus ludique. Un exemple au hasard, celui que j'ai surtout pas voulu faire, vous avez 10 titres de films de James Bond, 10 James Bond Girl, et évidemment, il faut retrouver les films dans lesquels elles ont joué. Moi, j'ai même pas essayé, je suis nulle là-dedans.
C'est pas trop difficile pourtant.
Oui, mais moi, c'est des films de garçons, ça. Alors, donc, je rappelle, le polar pour les nuls. Par contre, j'ai oublié de noter le prix minime pour la qualité de l'ouvrage, 23,95 €. Voilà, chez First Edition, on les reconnaît de loin, le jaune vraiment flashy. Deuxième ouvrage, totalement différent. Ce troisième ouvrage, c'est le numéro 131 de la revue de l'association 813. Un magazine qui paraît tous les 4 mois, de l'association la plus importante autour des littératures policières. Décidément, on a tellement l'habitude de parler de roman que j'ai l'impression que c'est un roman. Ça se lit comme un roman, on peut dire. Donc, cette revue s'appelle « Les 100 personnages marquants de la littérature policière ». Attention, ça ne se prétend pas être les 100 plus célèbres ou les 100 plus intéressants, les 100... Non, pourquoi ? Parce que, tout simplement, il faut connaître quand même la façon dont s'est élaboré, ce magazine. C'est tout simplement les adhérents qui ont voté pour les 100 personnages qui ont le plus marqué. Et puis après, on fait un grand tableau. Et puis les 100 préférés, ceux qui ont été le plus cités, eh bien, ils sont mis dans l'ordre d'apparition en scène et on les retrouve dans ce magazine. Et, oh stupeur, ça couvre carrément 160 ans. de l'histoire de la littérature policière, avec comme premier Auguste Dupin. Alors je rappelle, mais j'ai le magazine devant moi, c'est en 1857. Et le dernier cité, c'est Yeroul Deguerre, le flic mongol. Je crois que c'est il est apparu dans les années 2010-2011.
Et ils sont classés par ordre d'apparition à l'écran, quoi. Enfin, pas à l'écran, mais à la librairie.
Ce qui permet d'ailleurs d'avoir un bon aperçu de l'évolution du polar, de l'histoire du polar. Donc en gros, il faut les deux, hein. Il faut le polar pour les nuls et le magazine 813, parce que comme ça, ben, y en a un qu'en plus on peut feuilleter plus facilement que l'autre, parce que le magazine est quand même beaucoup plus léger. Donc ça donne deux ouvrages très complémentaires.
Ce qui et se recoupe d'ailleurs par certains.
Bien sûr, oui, ça se recoupe. Ce qui est intéressant aussi, c'est donc chacun des personnages a un article pour lui tout seul. Et chaque chronique est très différente. On a plein de narrations différentes parce que élaborées, certes, par des spécialistes de ces romans, mais ils ont eu à choisir, ils ont pu choisir leur manière de narrer, de raconter le personnage. Alors, on découvre une lettre écrite à un ponte de la mafia pour Montalbano le Sicilien. On découvre que une chose dont on a moins parlé quand on parle d'Hercule Poirot, c'est de parler de ses moustaches. Voilà, c'est toujours des biens un petit peu différents. Ça rappelle qu'on n'a pas lu ce roman, ou alors qu'on l'a lu il y a très longtemps et que c'est intéressant de s'y replonger. Et puis tiens, celui-là, on l'a jamais, on ne sait pas que ça existe. Ben, on va aller le trouver dans sa bibliothèque préférée ou bien chez son libraire.
Voilà, parce que pour chaque personnage, le rédacteur a choisi le roman qu'il préférait. Auquel préférer, parce qu'il y a aussi pas mal de rédactrices dans ces rédacteurs.
Oui, contrairement aux personnages d'ailleurs, ça on le regrette à chaque fois, il n'y a pas beaucoup de personnages féminins. C'est toujours pareil. Bon, peut-être que si un jour une association en 2100 fait ce même travail, eh ben, entre 2000 et 2100, il y aura plein de personnages féminins qui seront qui auraient été plus marquants, mais pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Alors, c'est très varié parce que on retrouve même de la littérature enfantine, parce que, bah oui, quand on était jeune, ça nous a marqué, le Club des Cinq, Alice, Lieutenant X, Lancelot, voilà. Et puis, il y a aussi cinq personnages de bande dessinée, et je vais pas les citer, parce que je vais vous laisser les découvrir. Donc, ça se trouve dans le magazine 813, vous pouvez pas louper le titre, les 100 personnages marquants de la littérature policière. Pour 10 euros, c'est donné.
Et pour plus de renseignements, blog813.com.
Voilà, tu m'as précédé. C'est un magazine, autant le polar pour les nuls, bien évidemment, vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies. Et si la librairie l'a pas en stock, eh bien, il vous le commande rapidement. Mais le magazine 813, il est très peu distribué en librairie. Par contre, comme tu viens de le dire, il y a le blog, blog813.com, je crois. Alors, 813 en chiffres, hein, 813, et vous pouvez le commander ainsi et le recevoir directement dans votre boîte aux lettres. Et bien voilà, j'espère qu'on vous a déjà, voilà, on est en octobre et on vous a déjà donné des idées de cadeaux de Noël. Je trouve qu'on est très bien avec nos auditeurs.
Hein. Ou de fête des mères. Hein.
Oh, enfin, ça, c'est dans beaucoup plus longtemps, hein. C'est l'année prochaine, hein. On verra en 2019, c'est encore dans quelques mois. Voilà, on arrive au terme de cette émission, donc on va vous laisser avec notre générique, et on vous dit comme à chaque fois, chacun dans son coin, avec un bon bouquin.
Ou plusieurs. À bientôt.
Au revoir.